Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Deux corps retrouvés dans le Var ce matin sur les communes du Muy et de Cabasse après les violentes intempéries de la soirée et de la nuit. De nombreux secteurs sont encore inondés, de nombreuses routes coupées dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Partout la décrue est maintenant amorcée, une décrue qui pourrait prendre au moins la journée. L'énergie atomique à des fins militaires est un crime. Le pape François, en visite à Hiroshima et Nagasaki, prend le contre-pied de ses prédécesseurs en dénonçant le principe de la dissuasion nucléaire. Une contestation qui passe aujourd'hui par les urnes à Hong Kong. C'est une participation très forte qui s'annonce aux élections locales, élections que les contestataires veulent utiliser pour faire pression sur les autorités. Dans ce journal également, Amazon mise en cause notamment par le mouvement Attac sur ses stratégies d'optimisation fiscale et ses pratiques sociales contestables. Et puis des transports urbains complètement gratuits, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Ça marche à Dunkerque depuis un an, mais la Fédération nationale des usagers n'y voit pas que des avantages, c'est le droit de suite de ce journal.
France Inter.
C'est la décrue dans le sud-est où Météo France a levé la vigilance rouge, ce qui ne veut pas dire que la situation soit redevenue normale. Ce sont des trombes d'eau qui se sont abattues sur le Var et les Alpes-Maritimes depuis vendredi, parfois l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie. De nombreux villages restent isolés par les inondations. Selon le préfet du Var, on peut d'ailleurs déjà prévoir que les dégâts seront considérables. 2 corps ont été retrouvés ce matin, dont probablement celui d'un homme tombé à l'eau hier dans la commune du Muy. Le Muy où se rendra tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et où s'est rendu ce matin Cyril Ardoux.
C'est un village recouvert de boue, avec des zones toujours inondées, comme en centre-ville, où les habitants nettoient leur maison. Et il faut faire vite, explique Serge, qui habite un bel hôtel particulier.
On est en train de passer la serpillière pour désincruster les sédiments. Parce que c'est beaucoup plus difficile à enlever quand c'est sec. Tant que c'est un peu humide, on se dépêche et puis après, on fera de la propreté après. Cette nuit, nous avons eu entre 50 et 55 cm d'eau.
Avec son épouse Laurence, ils ont mis à l'abri tout ce qu'ils pouvaient. Ça leur a pris la journée d'hier, mais il y a tout de même quelques pertes.
Des photos de famille, des livres précieux, des choses auxquelles on tenait affectivement parlant, qu'on n'a pas eu le temps de protéger.
Laurence est très remontée, elle pointe du doigt l'urbanisation à outrance, cause selon elle de l'augmentation des inondations ces dernières années. Un peu plus bas, c'est un musée associatif sur la Seconde Guerre mondiale qui a été inondé. Thierry Martin en est le président, et là encore, les dégâts sont inestimables.
On y perd tout ce qu'on met, tout notre argent. On a sauvé, tout ce qui était uniforme en tissu, mais là c'est détérioré, ça va peut-être on va pouvoir le sauver un peu, mais tout ce qui était en papier, archives, carton, c'est évidemment, encore une fois, c'est mort.
Et il faudra plusieurs jours pour vraiment nettoyer les maisons, puis attendre quelques mois pour repeindre et faire disparaître définitivement les traces de ce sinistre. Stéphane Beaufils, Cyril Ardoux, France Inter.
Des centaines de personnes ont été évacuées dans la soirée d'hier et dans la nuit. Beaucoup d'entre elles ont dû être élitreuillées. Au total, dans les 2 départements du Var et des Alpes-Maritimes, les pompiers sont intervenus pas loin de 2000 fois. Des cours d'eau sont montés parfois de 5 mètres, comme à Roquebrune-sur-Argence, où de nombreuses habitations et commerces ont été bien sûr inondés. Même chose de façon moindre à Cannes, où le maire David Lisnard se félicite des bons comportements de chacun.
On travaille beaucoup sur la conjonction de survenance de plusieurs risques majeurs. C'est ce qui est arrivé hier avec risque inondation. D'une part, d'autre part, submersion marine. On avait des vagues de 3 mètres et des gros dégâts sur le littoral. Et on voit bien que les alertes ont été prises en compte par les particuliers, que ces alertes connectées au bon comportement ont fonctionné. Et donc, c'est le fruit d'un travail que l'on mène pour développer un civisme environnemental et un civisme tout court en cas de survenance d'un tel risque. Alors, on n'est pas sur le même phénomène de crue éclair que celui du 3 octobre 2015, mais on voit bien que la mise en place des dispositifs à la fois classiques, de type haut-parleurs dans les rues, présence humaine, mais également numérique, la conjonction de ces facteurs et la répétition avec les services, avec les habitants, de la possibilité de ces catastrophes permet de nettement progresser et d'augmenter notre degré de résilience. C'est plus important dans ce type d'événement.
À la mi-journée, 4500 foyers sont privés d'électricité dans les 2 départements où de nombreux axes secondaires restent fermés. Le trafic des trains reste interrompu entre Toulon, Nice et Vintimille. On l'a dit, c'est un déluge qui s'est abattu sur la région. Rien d'exceptionnel. C'est ce que les météorologues appellent un épisode méditerranéen. Mais au regard des statistiques de ces dernières années, c'est sa fréquence qui est aujourd'hui nouvelle. Et ce n'est pas prêt de changer si l'on en croit Alix Roumaniac, directeur de Predict Service, une filière de Météo France. Il est au téléphone de Béatrice Duguay.
Ça fait plus de 15 ans que l'on fait ce suivi. On avait aussi récupéré toutes les données d'archives. On observe à la fois une fréquence plus importante et une intensité plus forte de ces événements. Et le travail que l'on mène avec notamment les modélisations de Météo France montre malheureusement que ce tendanciel va se poursuivre et augmenter. Souvent, quand on parle de changement climatique, on utilise le futur en disant dans 2030, dans 2050. Malheureusement, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est déjà dans les conséquences de ce changement climatique et ces dernières années, on observe effectivement une fréquence, une gravité plus importante des événements qui, combinés à l'urbanisation, à tous les événements, rendent des conséquences des événements assez fortes et il n'y a que les bonnes attitudes et l'anticipation qui doit permettre de faire diminuer les conséquences de ces événements.
Voilà, anticipation qui avait été bien faite avec dès hier plus de 1200 évacuations préventives dans les secteurs de hier, Fréjus ou Roquebrune-sur-Argence, en rappelant donc que ce matin, deux corps ont été retrouvés sur les communes du Muy et de Cabasse dans le Var, où un septuagénaire est par ailleurs toujours porté disparu.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Après la marée violette contre les violences faites aux femmes hier, après le succès donc de la marche parisienne, la plus importante jamais organisée en France, le gouvernement assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes signent ensemble une tribune ce matin dans le JDD pour promettre de nouvelles actions fortes dès demain à l'issue du Grenelle des violences conjugales, tout en appelant également à la prise de conscience général, car disent-ils, le gouvernement ne peut pas tout seul. En attendant, sur le front social et politique, c'est désormais la date du 5 décembre qui fait référence. Un jour de grève contre les retraites qui devrait être massivement suivi si l'on en juge aux multiples appels à se joindre au mouvement. Et le gouvernement le sait. Pour la ministre du Travail, d'ailleurs, Muriel Pénicaud, c'est le moment de penser au télétravail.
Alors, d'abord, je voudrais passer un message aux employeurs et aux salariés, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, pour leur rappeler que depuis les ordonnances travail, le télétravail est un droit et qu'il suffit d'un simple échange d'email entre le salarié et l'employeur. Et je demande aux employeurs d'être compréhensifs là-dessus. Parce que qu'est-ce qui va se passer le 5 septembre ? C'est essentiellement dans les transports publics, oui, notamment dans les grandes villes. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout certains qui défendent leurs régimes spéciaux, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Je rappelle qu'un chauffeur de bus à la RATP et un chauffeur de bus dans une ville de France,
il n'y a pas les mêmes. Mais sur les réquisitions des agents des entreprises de transport, SNCF, RATP,
Il y a des règles sur le service minimal. Pas plus, pas moins. Il faut appliquer les règles. On ne va pas inventer des règles pour le 5 décembre.
Lui dit réquisition.
Oui, moi je dis qu'il y a des règles et qu'on les applique, pas plus, pas moins.
Muriel Pénicaud, ce matin sur CNews, la ministre du Travail répondait notamment au président des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, qui voudrait renforcer le service minimum. Il le dit au JDD, il voudrait une loi qui oblige les entreprises de transport public à garantir un tiers du trafic aux heures de pointe. Réaction mitigée également de la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, à l'instant Samia Ghali, sur France Info. Il faut respecter le droit de grève, dit-elle, mais il ne faut pas non plus tout bloquer. On peut manifester sans faire grève et faire passer les mêmes messages. À l'étranger, l'énergie atomique à des fins militaires est un crime. Le pape François, qui l'avait déjà dit à Nagasaki ce matin, l'a répété à Hiroshima. La logique de la dissuasion nucléaire censée garantir la paix est une fausse sécurité. Si la dénonciation de la guerre et des armes est récurrente, évidemment, au Vatican, jamais un pape n'avait encore remis en cause le principe de la dissuasion nucléaire, dont Jean-Paul II disait au contraire qu'elle était un mal nécessaire dans les conditions actuelles. Sans doute son lointain successeur pense-t-il que les conditions ont changé.
Notre monde vit la perverse dichotomie de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité, soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance qui finit par envenimer les relations entre les peuples et empêcher tout dialogue possible. La paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total. Il devient crucial de compter sur des leaders qui soient à la hauteur des circonstances.
Voilà, le pape François, traduction assurée par Bruce de Galzin, le pape qui aura donc visité les deux sites frappés en 1945 par une bombe atomique. Demain, il rencontrera des victimes du séisme et du tsunami qui avaient tué plus de 18 000 personnes en 2011 et provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. À Hong Kong, une contestation qui passe aujourd'hui par les urnes. C'est une participation très importante qui devrait être enregistrée à l'issue des élections locales ce dimanche. Élection dont les contestataires pro-démocratie entendent bien se servir pour faire pression sur les autorités, Dominique André.
Des files d'attente s'étirent devant les bureaux de vote, parfois pendant plus d'une heure. Comme on le pressentait, les Hongkongais sont mobilisés pour ces élections locales. À la mi-journée à Hong Kong, un peu plus de 47% des électeurs avaient voté, soit trois fois plus qu'il y a quatre ans. Beaucoup de jeunes candidats pro-démocratie sont en course pour ces élections qui serviront de baromètre pour indiquer quel est le niveau de popularité de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Après six mois de contestation, Carrie Lam fait l'objet de critiques continues, aussi bien chez les manifestants, mais aussi dans les milieux d'affaires, des critiques montent sur son incapacité à gérer la crise. Ces élections locales qui servent à renouveler les conseillers des 18 districts du territoire semi-autonome ne changeront pas profondément la donne politique. Mais elles n'ont pas qu'une valeur symbolique. 6 sièges du Parlement local sont en jeu, ainsi que 117 places du collège électoral de 1200 personnes qui est chargé de désigner le chef de l'exécutif local. Le mandat de Carrie Lam arrive à échéance en 2020. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Retour en France avec Amazon qui dénonce des informations trompeuses. Le géant américain du commerce en ligne répond aux accusations portées contre lui par ATTAC, les Amis de la Terre et le syndicat Solidaire. Accusations portant sur les pratiques sociales de la multinationale, ses stratégies d'optimisation fiscale et son mauvais bilan carbone et qu'Amazon réfute en bloc. On va y revenir. D'abord, voilà ce que disait ce matin sur France Info le porte-parole d'ATTAC, Raphaël Prado.
On a fait une estimation prudente en estimant que 57% de son chiffre d'affaires réel, eh bien en fait, était dissimulé dans les paradis fiscaux. Et puis surtout par la technique qu'on appelle des prix de transfert, c'est-à-dire concrètement, la filiale luxembourgeoise d'Amazon fait facturer des services très chers à la filiale française, qui permet de déclarer artificiellement le bénéfice réalisé en France au Luxembourg. Eh bien, grâce à cette technique, Amazon paye très peu d'impôts. On peut d'ailleurs remarquer que c'est pas seulement en Europe, puisque aux États-Unis, elle a quand même réussi l'exploit l'an dernier d'avoir un taux d'imposition négatif, c'est-à-dire qu'en réalité, elle reçoit plus de crédit d'impôt qu'elle verse d'impôt. Donc ce qui est très inquiétant, c'est que on voit que Amazon aujourd'hui prend de plus en plus de place. Donc il faudrait quand même qu'on se pose la question à un moment donné, est-ce qu'on laisse Amazon continuer à se développer malgré les conséquences que ça a sur le plan fiscal, sur le plan social et également sur le plan environnemental. Nous on pense qu'il faut mettre un arrêt à cela et c'est pour ça qu'on appelle tout le monde à se mobiliser vendredi prochain pour faire du Black Friday un vendredi noir pour Amazon et de perturber les activités de la plus grande multinationale du monde ce jour-là.
Amazon, dans un communiqué, dénonce en réponse des erreurs factuelles et des spéculations sans fondement, assurant s'acquitter de l'ensemble des impôts et des taxes exigibles dans tous les pays où elle est présente, ajoutant qu'avec plus de 9300 emplois en CDI en France, elle était devenue un employeur majeur. C'était il y a un peu plus d'un an, le maire de Dunkerque, Patrice Vergriet, annonçait la gratuité totale des transports urbains dans l'agglomération, qui n'était pas la première à le faire, mais l'initiative était intéressante. Récente dans un ensemble industriel et populaire de 200 000 habitants, où la part du bus dans les déplacements était très faible et en recul. Un an après, tout a changé. La fréquentation des bus a augmenté de 80% et près de la moitié des utilisateurs sont d'anciens automobilistes. Pas seulement d'ailleurs grâce aux tickets gratuits. La mesure a été accompagnée d'aménagements urbains, voies réservées, feux prioritaires et l'offre de transport a augmenté de 30%, a été augmentée de 30%. Ceci expliquant aussi cela. On va y revenir avec notre invité. D'abord, retour au tout début de l'expérience avec le maire de Dunkerque qui expliquait sa décision.
C'est historique pour Dunkerque puisque Dunkerque va en quelque sorte devenir la plus grande agglomération en Europe à avoir le transport collectif gratuit pour tous, 7 jours sur 7 et puis 365 jours par an. Donc c'est vrai que c'est un moment historique pour l'agglomération.
Alors vous-même, vous n'êtes pas écologiste, en tout cas pas carté hein, chez Europe Écologie Les Verts. Politiquement, pourquoi prenez-vous une telle mesure ?
Il y a d'abord une dimension environnementale. C'est vrai que avoir la gratuité du transport collectif associé à la qualité, l'amélioration de la qualité du réseau, parce que ça c'est essentiel, effectivement ça permettra sans doute à un certain nombre de ménages de laisser un peu plus la voiture au garage, et donc qui est un plus pour la pollution de l'air. Mais pas seulement. C'est aussi quelque part un objectif économique, parce que quelque part, c'est 4,5 millions d'euros de pouvoir d'achat qui sont restitués aux Dunkerquois. Et puis c'est un objectif social, c'est une avancée sociale, parce que finalement la gratuité du transport collectif, ça permet à tous d'avoir libre accès à l'agglomération, à tous les points de l'agglomération, d'améliorer l'accès à l'emploi, d'améliorer l'accès aux loisirs, aux soins aussi. Donc c'est à la fois un objectif environnemental, c'est vrai, mais aussi économique et aussi social.
Voilà Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque à l'automne 2018 sur France Bleu, fréquence Nord. Invité de ce droit de suite, Bruno Gazot, le président de la FNAUT, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Bonjour.
Bonjour.
Alors à cette même époque, vous vous étiez opposé à cette gratuité totale, ce qui a de quoi surprendre. Hein. Comment les usagers peuvent-ils s'opposer à ça ?
C'est sans doute difficile à comprendre, mais nous sommes favorables à la gratuité pour ceux qui en ont besoin. Mais nous ne sommes pas favorables à la gratuité pour tous. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que pour atteindre les objectifs que le maire s'est fixés, nous pensons que nous pouvons, qu'il peut le faire sans forcément faire la gratuité pour tous. La gratuité sociale pour ceux qui en ont besoin est possible, hein, toujours. Ensuite, la mobilité se développe. Et la fréquentation se développe aussi. Elle est de l'ordre de 5% sur tous les réseaux français. Et à Dunkerque, les deux tiers sont dus à l'augmentation de l'offre. Donc Dunkerque a fait un beau réseau, ça il faut en convenir, et c'est ce qui permet d'augmenter l'offre. Alors après, le dernier tiers vient effectivement de la gratuité, et heureusement qu'il y a un effet une fréquentation sur la gratuité. Alors nos divergences viennent de là. C'est que pourquoi se priver des ressources de ceux qui peuvent payer le transport? Ça c'est la première chose. À un moment où on a besoin absolument d'investir, puisque comme je le disais, pour que la fréquentation des bus augmente, eh bien, il faut qu'il y ait une offre qui s'améliore considérablement.
Voilà, pour vous.
Pour abandonner sa voiture, il faut évidemment que l'offre soit bonne.
Pour vous, c'est un cercle vertueux, hein. On fait payer les transports, ça permet de développer l'offre, donc ça attire plus de voyageurs et ça permet à terme de baisser les prix.
Exactement. Alors, la difficulté, c'est effectivement d'opérer le report modal, faire moins de voitures. Et pour ça, il y a beaucoup d'autres conditions qui sont liées effectivement à ce qu'on peut stationner facilement. Est-ce que le bus est aussi rapide que la voiture? Parce que si vous mettez deux fois plus de temps en bus, vous n'allez pas abandonner votre voiture. Donc il y a beaucoup d'autres conditions sur la circulation. Est-ce que les bus ont des priorités au feu? Est-ce qu'ils ont des couloirs pour bus tout le long? Donc vous voyez, il y a beaucoup de conditions avant que les gens abandonnent leur voiture. Et puis dernier point, c'est qu'ils payent la gratuité, parce qu'évidemment elle a un coût. Alors on peut faire payer ou le contribuable, si on ne peut plus payer les usagers, c'est où le contribuable ou les entreprises.
Alors ce sont des choix. Ce sont des choix. À Dunkerque, par exemple, on a décidé de mettre le paquet sur les transports. Un projet de salle de spectacle, par exemple, a été abandonné.
Alors le projet de spectacle, il ne peut pas être payé par le versement transport, donc il est forcément payé par les contribuables. Hein. Donc c'est ça pour nous notre problème, c'est que depuis 30 ans, la mobilité est payée à la fois par l'usager, par le contribuable et par les entreprises. C'est un équilibre entre ces trois parties, c'est très bien. Et si on abandonne le paiement par l'usager, il y a fort à parier que les entreprises ne seront plus d'accord non plus pour contribuer. Donc c'est dommage au moment où il faut investir pour moderniser, pour digitaliser et puis pour encourager les gens à abandonner la voiture.
Alors on a compris vos arguments. Cela dit, beaucoup de villes réfléchissent à cette gratuité totale. Ça pourrait être un argument aux prochaines municipales.
C'est un vrai débat politique. Simplement, je crois qu'il ne faut pas non plus penser court terme. Il faut aussi penser à moyen et long terme. Et si on veut réduire la dépendance automobile, eh bien, il faut mettre le paquet sur les transports publics. Et pour ça, il faut investir.
Merci beaucoup Bruno Gazot, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. En rappelant, pour terminer, sur le front des intempéries dans le sud-est, l'alerte rouge a été levée, bien sûr, la décrue est partout engagée, mais ce matin, deux corps ont été retrouvés sur les communes du Muy et de Cabasse, dans le Var où un septuagénaire est par ailleurs toujours porté disparu.